France Inter.
To be or not to be, not to be.
J'ignore si c'est votre cas, mais moi, j'adore revoir les films que j'ai aimés. Il y en a certains que j'ai vus plus de 27 fois. Oui, je sais, j'ai pas de vie. Et il y en a d'autres que j'ai adoré tout autant, mais que je suis tout simplement incapable de revoir. Par exemple, Le tombeau des Lucioles, d'Isao Takahata. C'est au-dessus de mes forces. Je l'ai dit à ma compagne, le jour où je déclare à haute voix avoir envie de revoir Le tombeau des Lucioles, c'est mon code pour dire que je vais vraiment pas bien et que je suis prêt pour une thérapie. Orange Mécanique, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, pareil, des grands films, mais c'est bon, j'ai vu, je connais, je veux pas retourner sur les lieux du crime. Car il s'agit bien d'un crime. Il y a des réalisateurs et des réalisatrices qui, en quelque sorte, ouvrent des portes dans ton esprit et clairement, ça donne sur des pièces qui n'apparaissaient pas sur les plans, hein, où des sales trucs sont arrivés avant que t'emménages. Une sorte de cimetière indien mental. J'en ai plein des films comme ça qui m'ont mis une telle claque que j'ai encore la joue rouge rien qu'en y repensant. Grave, de Julia Ducournau, The Strangers de Na Hong Jing, Splice de Vincenzo Natali et évidemment, trônant loin au-dessus des autres, Old Boy de Park Chan-wook. Le film qui te prend, toi, le spectateur, tel le pitbull qui agite une chipolata. Et à la fin du long métrage, tu es dans le même état que le héros du film. T'as le regard perdu dans le lointain et tu aimerais qu'on efface de ton esprit les 10 dernières minutes de ta vie. Si à ça, t'ajoutes les fins de Viost, Parasite, la Corée du Sud est responsable de pas mal de mes traumas cinématographiques. Ah bah tiens, en y repensant, je reverrai bien Le tombeau des Lucioles.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglis.
And the Oscar goes to Parasite.
This is the first movie from South Korea to be nominated and to win the Oscar.
Memories of Murder, The Host, Snowpiercer, Parasite, Mickey 17. En l'espace de 8 films, Bong Joon-ho s'est fait une place de choix dans le paysage cinématographique mondial. Premier réalisateur sud-coréen à remporter l'Oscar du meilleur film en langue étrangère avec Parasite, il est devenu le visage cinématographique de l'Hallyu, cette vague de soft power coréen. Son secret, savoir écrire des grandes histoires vécues par des petites gens, avec une ironie, un humour et un cynisme portés toujours par des acteurs qui explosent à l'écran. Pour revenir sur ce génie de la mise en scène coréen, je suis entouré par Jesus Castro Ortega, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur et réalisateur de documentaires. Vous avez notamment réalisé les documentaires Making of de plusieurs films, de Bong Joon-ho, Snowpiercer, Mover, Memories of Murder et The Host.
Oui, tout à fait.
Avec nous, et je suis ravi, Marie Palot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes animatrice et journaliste de télévision, spécialiste de pop culture et culture asiatique. Vous animez notamment l'émission Ciné ou Canap sur RTL9.
C'est bien ça.
Avec nous également, Bastien Merosson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes programmateur de films asiatiques dans une dizaine de festivals, ainsi qu'au Musée Guimet, le Musée National des Arts Asiatiques à Paris. Et vous êtes par ailleurs l'auteur de Hollywood, le cinéma coréen paru en 2023 chez EPA.
C'est bien moi.
Et une voix que les auditeurs de France Inter connaissent parfaitement. Xavier Le Harper, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste pour la revue La 7ème Obsession et bien sûr chroniqueur au masque et la plume sur France Inter. Et votre chronique Le Temps des Séries est à retrouver sur l'application Radio France.
Vous avez tout dit.
Tu sens ? Ça vient d'où cette odeur ?
Quelle odeur ?
Kim du Vernium. Celle de Monsieur Kim.
Kim du ça ? Ah bon ?
Ouais.
Je vois pas de quoi tu parles.
C'est vrai ? T'as dû la sentir pourtant. Cette odeur, elle est partout dans la voiture. Comment te la décrire ?
Une odeur de vieux monsieur.
Non, c'est pas ça. Ce serait un peu comme des vieux radis. Non, c'est pas ça. Ça sent comme quand on fait bouillir des torchons. Oui, c'est ça, c'est cette odeur. Enfin, bref. On dirait tout le temps qu'il va pas rester à sa place. Mais, en fin de compte, il s'arrête à temps. Il sait conserver son rang. C'est bien.
Oui, c'est bien.
Contrairement à son odeur immonde. C'est vrai, ça empeste jusqu'à la banquette arrière.
Mais décris-la moi, ça sent quoi exactement ?
J'y arrive pas, c'est hyper compliqué à décrire. Quand je dois prendre le métro, il y a cette odeur qui flotte. Oui, c'est ça.
Ça fait une éternité que j'ai pas pris le métro.
Les gens qui utilisent le métro ont une odeur bien reconnaissable.
Un extrait de Parasite, un film de Bong Joon-ho réalisé en 2019. Pour ce film, le réalisateur a reçu une pluie de récompenses. Palme d'or du Festival de Cannes en 2019, 4 Oscars, meilleur film international, meilleur réalisateur et meilleur scénario original, 2 BAFTA, un Golden Globes, un César et j'en oublie. J'imagine qu'il a aussi dû avoir les compliments d'un voisin, etc. Enfin bref, gros succès. Marie Palot.
Oui.
Je me tourne vers vous, parce que, évidemment, Parasite a été encensé par les festivals du cinéma du monde entier, mais avant cela, avant Bong Joon-ho, qu'est-ce qui définissait le cinéma sud-coréen ?
Le cinéma sud-coréen, c'était quand même assez anecdotique. On ne pouvait pas l'avoir à la demande comme on l'a aussi facilement aujourd'hui. On en discutait un petit peu avant, mais c'était des VHS. C'était même presque la chance et le fruit du hasard qui faisait qu'on tombait sur les premiers films coréens. Moi, je l'ai vraiment découvert, donc ce cinéma, avec la nouvelle vague, fin des années 90-2000, où il y a vraiment un arc sur la vengeance. Mm-hmm. Une volonté aussi de crier ce Han, ce fameux sentiment coréen qui habite toute la société coréenne, une nostalgie, une mélancolie, mais aussi une souffrance d'avoir été un peuple occupé, d'avoir été un peuple en guerre. Et c'est quelque chose qui se retranscrit énormément dans ce cinéma. Un cinéma qui pleure, qui a aussi beaucoup de joie, et qui alterne finalement entre les genres. Alors c'est vrai qu'il y avait souvent ce triptyque de la vengeance qui était souvent...
De
Park Chan-wook, qui était souvent cité. Mais à côté de ça, c'est des films qui dépeignaient déjà des inégalités sociales, des tensions de classe et plein d'autres sujets qu'on retrouve, qui ont largement irrigué le cinéma de Bong Joon-ho.
Bastien Mersenne, en quoi Bong Joon-ho, à travers ses films, est parvenu à raconter l'histoire de son pays ?
À travers son talent, déjà, sa créativité. Je pense que c'est l'un des rares artistes coréens, voire mondiaux, qui arrive vraiment à concilier des formes de divertissement avec des notions d'auteur, des choses à dire. C'est pour moi un petit peu le Steven Spielberg de la première époque, qui proposait des films de divertissement, les films E.T., comme je les appelle toujours. Vous voyez un film E.T. soit avec un extraterrestre en mangeant du pop-corn, soit vous vous posez 2 minutes et vous réfléchissez à ce que vous venez de voir et vous voyez l'histoire de Jésus, en fait, qui est racontée à travers E.T. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a extrêmement de talent, qui a des choses à dire et qui se sert finalement de l'outil cinématographique pour raconter l'histoire de son propre pays. Et c'est aussi pour ça que je pense que ses meilleurs films sont les films qui sont réalisés en Corée même et un peu moins les superproductions, les coproductions internationales sur lesquelles on va peut-être revenir.
Oui, bien sûr. Xavier Le Herpeur, alors on le sait, vous, le cinéma, vous n'avez pas du sang dans le corps, vous avez du cinéma, on le sait, vous êtes passionné par ça. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, Bong Joon-ho, c'est un réalisateur singulier que j'ai envie de suivre?
Alors, je vais me la péter un tout petit peu, mais c'est vraiment le fruit du hasard. Hein. Je n'ai pas été d'une préscience particulière, je le racontais à Marie tout à l'heure. En fait, moi, j'ai été invité au début de ma carrière à faire le dossier de presse de Memories of Murder. Voilà. Mais au sein d'une boîte qui distribuait tout et son contraire. C'est-à-dire que vraiment, il l'avait acheté, mais il n'y avait pas de ligne éditoriale particulièrement marquée sur le cinéma asiatique. Voilà. Donc, je faisais des dossiers de presse un peu au kilomètre pour essayer de payer mon loyer. Et je tombe sur une VHS de Memories of Murder. Je ne connaissais pas cet auteur. D'ailleurs, à l'époque, personne ne le connaissait, et c'est tout de suite un choc. Alors encore une fois, c'était perdu dans la masse des films distribués par cette boîte qui vraiment, on avait des films avec Christophe Lambert, donc pour vous dire, on touchait vraiment régulièrement le fond quand même.
Oh la balle perdue, il était chez lui, il était en train de prendre son petit déjeuner.
Bah, ouais, bah voilà, comme ça c'est fait, je lui gâche sa journée ou sa soirée, selon le décalage horaire, et c'est vrai que c'est immédiatement dans les mauvaises conditions de visibilité d'une VHS sur un petit écran à l'époque, on a immédiatement effectivement une empreinte, un style qui ne va cesser d'ailleurs de performer, d'utiliser, mais tout est déjà là. Je me renseigne un peu, il a fait un premier film, Barking Dog, que je ne verrai que plus tard, mais tout est extrêmement intelligent et il y a un sens de la profondeur de champ, il y a un sens de la perspective, il y a un sens déjà du regard, c'est-à-dire cette idée d'utiliser un personnage pour prolonger le regard du cinéaste, parce que ça c'est un élément extrêmement récurrent de Bong Joon-ho au cinéma, ça me prend, voilà, bon, je fais le dossier de presse, pour la petite histoire, il me répond plein de choses sur le cinéma japonais qui ont été effacées par le distributeur parce que ça n'intéressait pas du tout, voilà. Voilà. Et quelques années plus tard, pardon, je continue de raconter ma vie, je suis à Cannes, à la quinzaine, à l'époque des réalisateurs, et je vois The Host, accompagné par une horde de fans coréens qui viennent soutenir comme ça la production locale, et c'est un choc absolu. C'est-à-dire que c'est moi qui aime le cinéma de genre et qui trouvait justement qu'il était sous-représenté à Cannes, je me dis mais c'est exactement, c'était Olivier Père à l'époque qui est maintenant à la tête d'Arte, qui avait eu la bonne idée de le proposer, et on sort tous alors ces petits jeux cannois, ouais mais qu'est-ce que ça fait simplement à la Cannes, ça aurait dû être en compétition tellement c'est génial, pour ça on adore refaire la compétition de toute façon, mais incontestablement, il y a un humour, il y a une perfidie, il y a un sens de la mise en scène, on croit avoir vu tous les films de genre, de monstres, de gros machins, et on n'avait pas vu à ce point la perfidie sociétale dont il est capable. Et puis on retrouve son amour pour le cinéma japonais. On y reviendra peut-être tout à l'heure, à travers des plans absolument magnifiques. C'est un film qui m'assoit, et je termine là. Quelques temps plus tard, je le revois à Paris. J'ai derrière moi Michel Simon, qui était vraiment l'âme auguste de la critique, qui avait côtoyé les plus grands. Et à la sortie de la projo, il me dit « T'as vu, c'est génial !» Et qu'un monsieur comme Michel Simon, qui avait côtoyé Kubrick, qui avait rencontré Scorsese à de nombreuses occasions, tombe en amour avec Zios, qui n'est pas du tout son cinéma, mais dont il pressent évidemment le talent, l'immense talent, on se dit, bah ouais, effectivement, il y a quelqu'un derrière la caméra.
Jesus Castro Ortega, vous avez travaillé sur de nombreux films de Bong Joon-ho, notamment The Host dont on parle, mais également Snowpiercer, Mover, Memories of Murder. Qu'est-ce qui définit le style de Bong Joon-ho, selon vous?
Pour moi, je pense que c'est une complète liberté, en fait, une liberté de ton, un lâcher-prise qu'on voit assez dans le cinéma coréen, mais chez lui, je trouve qu'il a un rapport direct à l'enfance et il est en prise complète avec son enfance et son adolescence. En fait, on lui prête souvent à Bong Joon-ho des intentions, soit politiques, soit vouloir avoir un discours sociétal particulier. Ça transpire dans son cinéma évidemment, mais moi, au fur et à mesure de mes rencontres, ça fait bientôt 20 ans que je le connais, c'est surtout ça que je remarque chez lui, c'est une espèce de capacité à pouvoir exprimer l'enfant qui est en lui, l'adolescent qui est en lui, avec toutes les contradictions que ça peut apporter, et puis avec tous les basculements qu'on peut ressentir dans ses films, ses ruptures de ton. Il y a cette énergie-là chez lui, et qu'il a toujours aujourd'hui, c'est ça qui me surprend le plus chez Bong Joon-ho. Moi, c'est ça qui le définirait pour moi. C'est cette liberté et cette force quoi, d'être en complète adéquation avec son lui de l'enfance.
Et si jamais vous deviez choisir un film à conseiller à quelqu'un, ça serait lequel ?
Moi, c'est Memories of Murder. Définitivement, hein, c'est aussi le film qui m'a complètement secoué, retourné ce polar rural qui contenait effectivement déjà tout le cinéma à venir de Bong Joon-ho. C'était avoir un polar irrésolu, le jeter comme ça au spectateur et nous mettre dans cette position d'inconfort total dans une salle. Enfin, moi, je l'avais découvert, je crois, aussi en VHS, mais je l'ai vu plus tard en salle. C'est vraiment le film que je conseillerais à voir, toutes affaires cessantes. C'est Memories of Murder.
Très bien. Marie Ballot ?
Moi, ce serait The Host. En 2006, je me souviens, quand je découvre ce film, c'est une grosse claque. Parce que l'occupation militaire américaine sur le territoire coréen, c'est un vrai sujet. De voir encore une fois la matérialisation, finalement, des erreurs humaines, et là, donc, de l'armée américaine, donner vie à un monstre, une créature, et de voir une famille unis, sans défense, face à une autorité d'oppression et des institutions qui sont incapables. Ça a vraiment résonné en moi. Et ça a résonné en la mère que je suis devenue, et que je n'étais pas à l'époque. Et ça a été vraiment aussi assez pivot pour moi, parce que j'étais très fan des films de Kaiju, où déjà les essais nucléaires dans les années 60 donnaient vie à cette créature monstrueuse au Japon. Et j'ai retrouvé, dans une certaine mesure, dans The Host, ce parallèle. Et je me suis dit, ah d'accord, le cinéma coréen est capable de produire ça.
Il y avait un côté Godzilla produit par les Dardennes.
Exactement, mais avec un point de vue, déjà, il arrivait à tourner la caméra et les acteurs regardent le public à un moment, à travers un écran. Je me suis sentie impliquée, je me suis retrouvée dans les personnages. Et par la suite, en fait, les films de monstres de Bong Joon-ho se sont transformés. Les monstres, ce ne sont plus des créatures qui émergent de nulle part, c'est dans le cœur des hommes. Et ça m'a bouleversée.
Et d'ailleurs, dans The Host, ce qui est assez intéressant, c'est que même si on a affaire à un monstre, au bout d'un moment, on le voit vraiment aussi comme une victime d'une pollution. C'est-à-dire qu'il est toujours filmé maladroit, c'est un monstre qui chute. C'est pas la star des monstres comme Godzilla ou le dinosaure de Jurassic Park, le T-Rex. Là, on a vraiment affaire à quelque chose qui n'a pas sa place dans ce monde-là, mais qui est maladroit parce qu'en fait, c'est les Américains, c'est les scientifiques qui sont derrière... Et moi, c'était un aspect qui m'avait particulièrement plu. Ouais. Xavier Le Herpeur ?
Ah, il faut que je vous donne mon film préféré.
Ben oui.
Alors, je vais rebondir sur ce que disait Marie avec beaucoup d'intelligence et pertinence, La création d'un monstre. C'est un film qui est moins aimé parce qu'il nous a surpris. J'étais encore là une fois à Cannes en le découvrant. Donc, c'est toujours intéressant de voir l'impact de la découverte d'un cinéaste qui commence à émerger, qu'on commence à aimer, mais que l'on a très vite, parce que nous, Français, on adore ça, ranger dans une catégorie. Donc, après Memories of Murder et après The Host, on attend que Bongiorno continue de faire des films comme ça, un peu perfide, un peu méchant. Et il fait Mother, La création d'un monstre. Qui est pour moi un film absolument mais magnifique, vertigineux. On retrouve à la fois l'incertitude qui taraude tout le temps Memories of Murder, l'irrésolution, mais aussi la manière dont on se détruit en n'arrivant pas à capturer ce serial killer. Il y a The Host, effectivement, qui crée vraiment le monstre. De quelle part de nous-mêmes est-il fomenté ? La société crée des monstres, des serial killers, des monstres, effectivement, qui bouffent tout le monde. Et Mother, c'est une femme seule, dans un univers remarquablement mis en scène, une Corée qu'on ne voit pas, qui n'est pas du tout aseptisé, et tout le travail formel de Bongiorno qui est à partir de travelling comme ça, quand il sort de la maison de cette femme pour aller vers cet enfant qui est handicapé mental, mais qui est peut-être aussi l'auteur d'un crime, jusqu'au retournement final. Moi, c'est un film qui me bouleverse, que j'ai revu plusieurs fois parce que il a pas été très bien accueilli. On s'est
dit, qui est incroyablement joué, hein.
Incroyablement joué, incroyablement intelligent. Et à Cannes, c'était ouais, bon, d'accord, ok. Et en fait, c'est un film d'une importance. Et là, on se dit, bon, bah, ça y est, Bongiorno, il sait faire un truc. Il y a deux types de cinéastes, me disait un copain, il n'avait pas tout à fait tort, ceux qui feront toujours le même film, Jacques Demy, Truffaut, et ceux qui feront un film différent à chaque fois, Alain René. Et ben Bongiorno, il est du côté d'Alain René, et j'aime les trois, bien évidemment, c'est-à-dire que rien ne les relie, et tout les relie, tout fait sens dans une espèce de chemin tracé, et moi j'adore les cinéastes qui sont capables, qui ont cette capacité de m'étonner, de me surprendre par leur intelligence, et effectivement... Effectivement, les films américains sont peut-être moins bons, mais je les aime terriblement aussi parce qu'ils continuent de nous donner des pièces dans un puzzle que j'espère ne pas se voir finir avant de très très nombreuses années, tellement il est passionnant. Mm-hmm. Pardon, je suis intarissable.
Non, mais...
C'est passionnant aussi.
Bastien Meresson, je ne vous ai pas oublié.
Ah, c'est gentil. Je mets un pied d'égalité Memories of Murder et The Host, comme ça je ne mets personne sur le dos dans le studio.
Merci. Et vous êtes le conciliateur de cette émission.
Exactement. Et juste pour ajouter aussi par rapport à The Host, je le chéris d'autant plus parce qu'il y a tant de regards à porter dessus, où qu'on le soit dans le monde. Et justement, c'est ce qui fait aussi l'universalité du cinéma de Bong Joon-ho. En Occident, on souligne toujours le côté américain, occupation américaine, le monstre créé par l'Américain, etc., ce qui est vrai, c'est un fait. Mais en fait, ce que l'histoire raconte, c'est encore une fois l'histoire de la Corée, avec comment se nourrit le monstre, eh bien, par le peuple. Et finalement, les métaphores de l'oppression et surtout d'une politique menée en Corée à un certain moment donné. Donc c'est extrêmement, le film est extrêmement, extrêmement, extrêmement coréen. Et malheureusement, je ne peux pas spoiler, mais vraiment tout le dénouement est rallié plutôt à un fait fondamentalement coréen, les massacres de Gwangju, où des manifestants ont été massacrés, etc. Et ces petits détails de l'occupation américaine et des déchets, c'est lui qui crée le monstre, finalement, c'est un détail dans la richesse finalement foisonnante de ce film. Donc c'est un véritable millefeuille qu'on pourrait décortiquer encore pendant des années.
C'est une histoire de fou.
Chef, ah oui, il y a une chose que j'aimerais vous montrer.
Qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui ?
Qu'est-ce que c'est ?
C'est moi qui ai fait le relevé concernant une émission qui passe à la radio.
Ça a l'air d'être une liste avec des titres de chansons.
Oui, c'est une émission que j'écoute assez souvent le soir quand je rentre. On peut leur demander de passer la chanson qu'on veut et il y a un homme qui demande tout le temps l'être triste. Et là, j'ai relevé exactement les dates où ils ont diffusé cette chanson. Étant donné qu'elle n'est pas vraiment très populaire, personne d'autre ne demande à ce qu'on la passe.
C'est quoi le titre ? L'être quoi ?
Ça s'appelle L'être triste. C'est chanté par Yoja. C'est l'ancien batteur de Yongpil.
Ah ouais, c'est lui.
Ouais, et alors ?
Ces dates correspondent exactement au jour où il y a eu ces différents meurtres dans la région. Regardez. Le 20 octobre, le meurtre de Park Bo-yi. Et ensuite, on a 19 décembre, celui de Lee Hyang-soo.
어젯밤 박명자 죽을 때도
quand Park Min-ja s'est fait tuer hier soir. Ils l'ont diffusé cette chanson?
Oui. J'ai écouté la radio toute la soirée.
C'était un extrait de Memories of Murder, le film policier de Bong Joon-ho, réalisé en 2003. Il s'agit de son second film, directement inspiré d'une histoire vraie de crimes en série qui a beaucoup marqué la Corée. Et vous avez entendu Sad Letter de Yoo Jae-ha. Marie Palot, vous vouliez rebondir sur quelque chose qui a été dit.
Il y a quelque chose qui a été dit justement un petit peu plus tôt et qui est très important, notamment pour comprendre la filmographie de Bong Joon-ho, c'est que il est né donc à la fin des années 60, en 69 si je me trompe pas. Et bien qu'il ait grandi dans une famille éduquée, aisée, avec un père designer, il y a des écrivains, etc. Donc il a plein d'influences littéraires, artistiques, il a fait ses études à Yonsei, il est rentré à l'Académie du cinéma. Il a en lui aussi des souvenirs d'enfant, et ça aussi ça a été dit, c'est très important, l'enfant en lui, la jeunesse en lui. Un jeune homme qui a vu justement le soulèvement de Gwangju, qui a vu un État incompétent qui sacrifie ses citoyens, il a vu la crise économique moderne et le sacrifice qui a été demandé au peuple coréen. Et ça, j'ai la sensation qu'il le rend aujourd'hui à ce même peuple, en dénonçant ce que lui, même lui, dans son cadre aisé et confortable, il a pu voir de ses propres yeux. Et il dit quelque chose après le succès international de Parasite. Il dit finalement, ceux qui sont dans le souterrain, qui vivent dans les sous-sols, ils veulent pas une révolution, ils veulent juste leur part du gâteau. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, le gâteau, il leur sert quelque part à travers ces films.
Mmh. Et justement, dans Memories of Murder, son deuxième film, on découvre un ton qui caractérise son cinéma. C'est-à-dire que même si on est à l'intérieur d'une grande histoire, les individus, eux, sont monsieur et madame tout le monde. On voit très vite des policiers qui sont incompétents, mais qui sont aussi dans une sorte de quotidienneté qui peut faire penser, quand on regarde, qu'on s'est trompé de film, c'est-à-dire qu'ils vont faire des blagues du quotidien et tout ça. Il y a cette rupture de ton permanente, Xavier Le Harper, chez Bonjour Ho.
Ah bah c'est vraiment une de ces marques de fabrique, j'aime pas dire cela, parce qu'on a l'impression que d'emblée, il va insuffler dans son scénario et dans sa mise en scène des petits éléments ironiques. Tu as parlé tout à l'heure, Marie, de rupture de ton, et c'est effectivement complètement ça. Mais il y a cette manière de banaliser le héros, en tout cas de le déhéroïser, ce qui est déjà un contre-pied au cinéma occidental où, effectivement, le héros est omnipotent, il gagne à la fin, il fait triompher à de très rares exceptions.
C'est Avengers.
Zodiac, oui, par exemple. Oui. Parce que là, il gagne, il n'y a aucun problème. Là, on a des hommes et des femmes, dans Memories of Murder, c'est plutôt masculin, qui, effectivement, trébuchent, doutent énormément et qui sont eux-mêmes, alors qu'ils représentent une autorité, qu'ils mènent une enquête, donc on est quand même conditionné dans l'idée qu'ils vont la résoudre, qu'ils vont arrêter ce serial killer, que le serial killer c'est le méchant et que eux c'est les gentils, on est très vite déstabilisé par, c'est des mecs violents, c'est des mecs qui sont autorisés par les autorités qui sont au-dessus d'eux à être effectivement, à exercer une violence sur les suspects, à ne pas être effectivement très vertueux, et subitement ça change complètement notre paradigme de lecture, on n'est pas du tout dans une identification classique, on a envie d'être celui ou celle qui va résoudre l'enquête, mais on est plus proche effectivement de ces gens qui sont torturés de l'intérieur, qui sont perclus de défauts et jusqu'au bout, il y a ça et c'est extrêmement intéressant parce que quand il va nourrir de peu à peu son cinéma de lutte des classes, la lutte des classes généralement elle est très binaire, elle est très sommaire, les méchants c'est les riches, les pauvres c'est les gentils et chez lui c'est éminemment plus complexe que cela, on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait que vous aviez choisi de Parasite, on parle d'odeur des pauvres. C'est-à-dire quelque chose de pas propre, de pas évident. C'est-à-dire qu'il a une manière de ne pas les angéliser, mais tant mieux, parce que ça nous permet effectivement, nous, de rentrer dans le film à d'autres portes d'entrée que le cinéma occidental habituel, et ça nous raconte vraiment quelque chose de la société, mais sans jugement facile, sans répartition, comme ça, très claire des choses, une zone d'ombre, un gris, que le cinéma américain déteste, et que j'adore, et dont le cinéma coréen, entre autres, mais pas mal de cinéma asiatique, se repaît à très juste titre, ce qui fait qu'on peut les revoir mille fois, parce qu'on n'est pas du tout dans la résolution, on est dans quelque chose d'éminemment plus complexe que cela. La fin de Parasite, par exemple, la fin de Mother également, mm-hmm. mais celle de The Host tout à l'heure. Mm-hmm. Voilà. Et c'est pour ça que ce sont des cinémas et des films qui nous passionnent, on peut dire nous, les quatre que nous sommes aujourd'hui, parce que leur lecture ne s'arrête absolument pas au scénario, mais va beaucoup plus loin grâce à la mise en scène, grâce à la perspective historique, politique et sociétale. Et c'est pour ça que c'est un cinéaste aussi intéressant. Même dans les films un peu ratés comme Mickey 17, il reste quand même des choses éminemment passionnantes et impertinentes.
Alors il se murmurait qu'il allait peut-être réaliser un James Bond, donc c'est vraiment de la rumeur. Toi qui parlais justement d'anti-héros, de héros sale qui se fait un peu écraser par la vie, je serais assez curieuse de voir ce que ça donne, un James Bond dans ses mains.
J'adorerais,
moi aussi. Jesus Castro Ortega, on parlait justement des différents genres qui cohabitent à l'intérieur d'un même film de Bong Joon-ho. Il y a des aspects sociaux, il y a des aspects sociaux plutôt, il y a le côté comédie, film de monstres de temps en temps, de films policiers. Comment il arrive, selon vous, à faire cohabiter tous ces genres et que ça fasse un tout harmonieux?
Ouh là là, il faudrait plutôt s'adresser à des spécialistes du cinéma. Moi, je fais des documentaires sur ces films, mais ce que je peux dire, c'est que en fait, j'en reviens à lui et à sa personnalité, parce que moi, ce que je m'attache surtout à essayer de trouver comment il fonctionne. Enfin, celui à travers ses films, il raconte beaucoup de lui-même, et en fait, c'est une sorte de... Je sais pas, il arrive à condenser ses angoisses, hein, parce que c'est quelqu'un de très angoissé quand même, Bong Joon-ho. C'est quelqu'un qui est très en porte-à-faux avec la société dans laquelle il a grandi, comme l'a dit Marie, et dans laquelle il a vécu, qui est un milieu plutôt bourgeois, aisé et lettré. Et ses films sont pétris de ces contradictions-là. Et il se nourrit beaucoup de ses propres expériences et de son regard sur le monde qui est très paradoxal, qui est à la fois écartelé entre une admiration pour du cinéma naturaliste, du cinéma d'auteur, le cinéma japonais, le cinéma français, la nouvelle vague, et aussi une admiration pour le cinéma américain à grand spectacle. Et il oscille constamment entre ces deux pendant-là. Et c'est pour ça que je trouve les films de Bong Joon-ho sont assez uniques, c'est parce qu'ils lui sont complètement propres, ils sont complètement identifiables à lui, à sa personnalité, à sa manière de regarder le monde. Donc il n'y a pas de formule chez Bong Joon-ho, c'est impossible de le résumer à voilà une formule. Et ce qu'il me dit souvent, pour lui, la période la plus difficile dans la conception d'un film, c'est l'écriture, c'est là où il est le plus en lutte avec lui-même en fait. C'est pour ça que ça lui prend beaucoup de temps, c'est pour ça qu'il aussi, il travaille avec des collaborateurs assez fréquemment. C'est un endroit du film où il se perd, où il se lâche, où il laisse libre cours à sa folie, à ses envies, et il est constamment en train de se nourrir de l'actualité, des gens qu'il croise. Par exemple, il écrit dans des cafés à Séoul. Il se met dans certains endroits, dans son quartier, là où il habite, et il se pose, et il observe, et il prend des notes, et il dessine beaucoup. Et tout ça, il va parvenir à le synthétiser, mais c'est un moment qui est douloureux, vraiment, il le dit lui-même, qui est douloureux pour lui, ce moment de la création. Et on le célèbre pour ça, c'est pas pour rien qu'il y ait un Oscar, hein, pour le meilleur scénario.
Comment osez-vous venir ici ?
Vous êtes malade ?
En fait, j'habite le quartier, alors je voulais présenter mes condoléances à la famille de Hajoum. Présenter tes condoléances à la place de ton fils ?
Tu penses que ça suffira ?
En réalité, mon fils n'a rien fait du tout. Voilà. Vous qui êtes ici, vous devez connaître la vérité. Vous ne devez surtout pas vous laisser avoir. Mon fils ne l'a pas tué. Cette espèce de connasse est tombée sur la tête.
Pas honte. Tu oses ramener ta sale gueule devant tout le monde.
Portez-moi du sel. Je veux juste vous dire que c'est pas mon fils.
Comment ça, c'est pas ton fils ?
Bien sûr que si, c'est Dotchun qui l'a tué.
Et toi, tu viens ressusciter Hajoum ? Hein ? Vas-y, ramène-la à la vie.
Ramène-la à la vie !
Tu vas te taire, salope ! Sors d'ici ! Vas-y, ramène la pauvre Hajoum à la vie !
C'est un malentendu ! Un malentendu !
Malentendu, mon cul ! Fous-t'en !
Je vous en prie, on devrait discuter qu'un moment !
Discuter de quoi ?
C'était un extrait de Mover, un film de Bong Joon-ho réalisé en 2009 avec l'actrice Kim Hee-ja dans le rôle titre et l'acteur Won Bin. Bastien Meersen, y a aussi un thème qui revient très souvent dans la filmographie particulièrement coréenne de Bong Joon-ho, c'est la famille. C'est-à-dire que quand les institutions, l'État laissent tomber les gens, le socle stable sur lequel les protagonistes de ces films s'appuient, c'est la famille. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui lui est singulier ?
Ça lui est singulier de la manière de traiter. Après, la thématique de la famille, c'est quelque chose foncièrement au cœur d'énormément de films coréens, et que ce soit dans le cinéma commercial que dans le cinéma d'auteur. Et en fait, c'est la résultante de l'ultra-capitalisation du pays de ces 30 dernières années. Voilà. Et là, on touche à un autre cœur, finalement, de la filmographie de Bong Joon-ho, et ce qu'il veut raconter, en fait, cette incroyable explosion économique qui s'est effectuée ces 30 dernières années, là où l'Europe a mis 200 ans à vivre la même chose, si vous voulez. Et l'une des conséquences, c'est le risque de l'explosion de la cellule familiale. Et donc, dans beaucoup, beaucoup de ces films, on a toujours un risque extérieur qui pèse sur cette famille, que ce soit une créature monstrueuse dans The Host, que ce soit une certaine forme de pauvreté dans Parasite. Donc c'est vraiment une thématique récurrente qu'il réimagine. Mais encore une fois, qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres films, et notamment Dernier Train pour Busan, où vulgairement on dit très souvent c'est un film de zombies, et on se l'approprie encore une fois avec une manière de voir occidentale. Et en fait, le réalisateur a voulu raconter là les dangers éventuels d'une explosion familiale. Lorsque vous prenez chaque personnage, en fait, il est menacé. Il y a une jeune femme enceinte qui est menacée. Il y a deux sœurs qui sont séparées par un mur. Donc voilà, c'est pas uniquement Bong Joon-ho. Mais je mets énormément d'importance à dire qu'il traite de l'ultra-capitalisation et des conséquences, et donc le risque de l'explosion de la cellule familiale. Et Parasite, où nous, Français ou Occidentaux, on dit souvent « Ah, c'est un film sur la lutte des classes », il dit non, la lutte des classes est également une résultante, finalement, des conséquences de l'ultra-capitalisation que j'ai envie de raconter avant tout.
Marie Palot, on attaque, là, on est dans un cycle Corée du Sud au sein de Blockbuster, et il est difficile justement de ne pas faire un lien entre la filmographie de Bong Joon-ho, mais aussi tout ce qui est évoqué dans les K-dramas, dans beaucoup de K-dramas, parce que c'est tellement large, mais également aussi dans Squid Game.
Bien sûr.
Et il y a cette idée, effectivement, que la société économique coréenne du Sud s'est développée tellement rapidement qu'elle s'est fait au prix de la vie de nombreux, du peuple, en fait.
Totalement, sur la fameuse génération miracle, c'est une génération, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont mon âge, qui ont vu leurs parents faire la queue pour offrir finalement au gouvernement des bijoux de famille qui se transmettaient de génération en génération pour justement essayer d'éponger une dette, d'éponger une histoire qui les touche mais qui en même temps à un niveau absolument local et individuel, on ne devrait pas demander ça aux gens. On espère que l'État-providence va essayer de sauver le peuple. Et en fait, la Corée, elle s'est beaucoup reposée sur les épaules de sa société. Ça s'en ressent aujourd'hui dans les productions cinématographiques, audiovisuelles, artistiques, en tout genre. Et en fait, cette génération-là, elle est profondément marquée par un terme qui s'appelle le Hell Joseon, donc l'enfer de Joseon, Joseon étant la dénomination de l'ancienne société royale coréenne. Et justement, il y avait cette notion de hiérarchie, de gens d'en haut et de gens d'en bas, et de jeunes qui travaillent trop dur, beaucoup trop dur dans une société où ils ne sont pas reconnus, s'ils ne sont pas assez beaux, s'ils ne sont pas assez forts, s'ils ne sont pas assez intelligents, ils ne sont jamais assez, en fait. Et ils sont privés de sommeil, privés de plein de choses qui font que la jeunesse est censée être belle. Et ça se ressent beaucoup dans le cinéma de Bong Joon-ho et aussi dans les séries K-drama qui donnent quand même un peu plus d'espoir, je trouve, parce qu'on y voit des couples, on y voit de l'amour, on y voit de l'amitié et on y voit parfois des petites révolutions, des couples homosexuels, l'envie aussi de donner la main à quelqu'un qu'on aime bien. Et dans le cinéma coréen, c'est un petit peu plus réaliste sur ce qui est possible de faire en Corée. Justement, ces jeunes qui se font un petit peu rattraper par le devoir envers les anciens, de devoir travailler pour entretenir les anciens et pas l'inverse. Et donc, du coup, je trouve que le cinéma de Bong Joon-ho, il est très honnête là-dessus, parce qu'on le disait plus tôt, c'est quelqu'un qui a été élevé dans un cadre très bourgeois, et qui pourtant, on a la sensation qu'il partage la même peine que les autres, ce fameux Han, que tous les Coréens ont en commun, une mélancolie liée à leur histoire.
Marie Palot, vous avez utilisé le terme honnêteté dans le cinéma de Bong Joon-ho, et c'est quelque chose qui me frappe en regardant la Corée du Sud qui s'est développée si rapidement, mais elle est déjà capable de faire quelque chose qui échappe, je trouve, pour beaucoup à la société française. C'est que tout en ayant un modèle extrêmement dur pour ses habitants, elle est aussi capable d'intégrer les critiques vis-à-vis de ce modèle en son sein. Et donc il y a quelque chose de très ambivalent dans la production artistique coréenne, où on montre, ben voilà, on est un pays qui réussit, on va de l'avant, et en même temps, voilà les éclopés que ça laisse sur le... Mais en étant totalement transparent sur les avantages et aussi les inconvénients de ce modèle économique.
Et je pense que oui, c'est tout à fait ça, et c'est ce qui a fait aussi l'énorme succès de Squid Game, l'énorme succès de Parasite, c'est que pendant de nombreuses années, on nous a mis un filtre Instagram de regarder la Corée, c'est Disneyland à ciel ouvert, c'est génial, tout est beau, tout est parfait, les gens sont beaux, ils ont la peau lisse, on chante de la K-pop, on mange des tteokbokki. Non, la réalité, c'est qu'il y a vraiment des gens qui crèvent la dalle. Il y a de la pauvreté comme partout, il y a la criminalité comme partout, il y a plein de problèmes, et on en parle même de plus en plus. Aujourd'hui, quand on parle de la politique sud-coréenne, on est en train de se dire waouh, finalement, c'est pas la joie là-bas. Et je pense que ce filtre qui était appliqué, qui avait l'air de donner à la Corée un visage assez parfait, à l'image, finalement, de ces visages très lisses, très beaux, très propres, très soignés. Je crois que ça y est, le vernis est en train de s'écailler, et Bong Joon-ho a été une des figures emblématiques de la Hallyu, malgré lui, parce qu'il n'est pas une figure de la Hallyu à proprement dit, mais il fait partie de ces gens qui ont largement contribué à la popularisation de la Corée du Sud, mais en montrant un visage quand même bien plus honnête.
À ce stade, je serais pas surpris que vous vous demandiez pourquoi j'ai fait ça. Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre.
Vous postulez pour devenir un remplaçable ?
Oui.
Et vous avez lu tout le formulaire ?
Quand vous mourrez, nous imprimerons une nouvelle version de votre corps.
Ouais, j'aurais dû tout lire. Ils me font bosser comme un malade, mission après mission.
Chaque fois que vous mourrez, nous apprenons quelque chose. Et l'humanité progresse.
Il est vivant.
Ça va.
Mickey, tu m'as l'air mal barré.
Ouais, je sais.
Tu dois avoir l'habitude maintenant, mais ça fait quoi de mourir?
Même si j'en suis à ma 17e fois, je déteste ça.
Vous venez d'entendre la bonne annonce de Mickey 17, le dernier film de Bong Joon-ho, sorti en salle en 2025 avec Robert Pattinson dans le rôle de Mickey Barnes, doublé en français par Thomas Roditi. Alors, Xavier Le Herpeur, on va attaquer le versant occidental de Bong Joon-ho. Alors, avant Mickey 17, il y a eu Snowpiercer, le transpersonnage. Et là, quand même, je me dis, on a affaire à une adaptation d'une bande dessinée française avec des acteurs américains, Chris Evans, Tilda Swinton, enfin, Tilda Swinton n'est pas américaine, si je ne m'abuse.
Non, britannique, absolument.
Voilà. Donc, comment Bong Joon-ho s'est retrouvé, dès son cinquième film, sur un projet cosmopolite tel que celui-ci?
Alors, la genèse du projet, malheureusement, je ne la possède pas, je ne la connais pas. Et en même temps, dès les premières images, on dit, bah oui, il est complètement à sa place. Il n'y avait que lui, entre guillemets. C'est toujours idiot de dire, il n'y a que lui, tout le monde peut le faire, évidemment. Mais ça synthétise énormément, effectivement, non seulement de ses obsessions politiques, économiques, mais aussi ses lieux clos, ses immenses cheminements, le train, effectivement, mais on le connaissait déjà pour des travelling. Il y en a un sublime dans Mother, qui reconstitue justement les strates sociétales dont tu parlais, Marie, tout à l'heure, à l'écran, depuis l'extrême pauvreté à l'espèce de clinquant de la rue de Séoul. Donc, il adore ça, en fait. Il adore qu'il y ait un mouvement à l'intérieur du film, du scénario, du décor qui lui permette de tracer, justement, et de reconstituer les choses. Donc, Snowpiercer, entre guillemets, c'était pour lui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, bien évidemment. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fonctionne extrêmement
bien. Moi, je l'avais vu en salle, c'était une très bonne surprise.
Ah, c'était une excellente surprise. On y allait un peu prudemment, effectivement. Moi, j'avais été conquis. Bon, après, n'importe quel film avec Tilda Swinton me conquiert de principe, de toute manière. Elle est absolument géniale. Elle accepte de s'en les dire avec une espèce de gourmandise et de joie et de plaisir. Donc, la perfidie de Bong Joon-ho, elle se retrouve dans la perfidie de Tilda Swinton, qui est une actrice tellement géniale, tellement extraordinaire, tellement malicieuse. Moi, je l'adore, je l'aime. Voilà pour la déclaration d'amour. Et puis, effectivement, oui, c'est un film bolchevique. Hein. Les riches bouffent les pauvres et les pauvres vont finir par accepter, refuser de se laisser dévorer. Et c'est là où le film est brillantissime en termes de mise en scène, vraiment, c'est-à-dire qu'il utilise toutes les entraves qui sont les lieux clos, les huis clos, l'espèce de direction comme ça unique dans lequel le film et la mise en scène doivent se glisser pour inventorier un nombre effectivement de rapports de classe extrêmement intéressants, encore une fois sans angélisme particulier pour la classe des pauvres qui littéralement nourrit les riches. Voilà, je spoilais un tout petit peu, mais j'espère que tout le monde l'a vu. Et surtout, le plan de fin. C'est-à-dire que le plan de fin, qui est d'une ironie macabre et qui contredit une fois encore tout le cinéma occidental qui voudrait que les choses soient très claires à la fin et qu'on sache évidemment qui a survécu, pour quelles raisons et pour quel avenir. Et là, il y a un dernier plan que je ne révèle pas pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais qui rebat les cartes de façon absolument magistrale. On parlait de Park Chan-wook tout à l'heure et ils ont ça en commun, cette espèce d'ironie macabre qui, en gros, tue tout le film. Il y a un film de Park Chan-wook, je crois que c'est Old Boy, où quelqu'un effectivement vient d'être poignardé à la fin. Il ne sait pas pourquoi. Il y a un message politique qui a été qui accompagne le couteau qu'il a lardé, et il essaye simplement, alors qu'il est en train de crever, de voir qu'est-ce qui est écrit sur le message.
Oui.
C'est-à-dire cette ironie macabre qui fait qu'à un moment, vous êtes pris dans une machine qui vous broie, qui vous emporte ailleurs, qui fait vous peut-être un héros ou peut-être un salaud, c'est toujours cette ambiguïté-là. Et le plan final de Snowpiercer est absolument génialement glaçant dans tous les sens du terme, mais effectivement lourd de deuxième lecture possible du film.
Parce que tu vois pas une suite à ça, tu dis mais tout ça pour ça, mais en fait c'était...
Oui, c'est souvent ça, oui.
Ouais.
Jesús Castro Ortega, justement, en travaillant sur les documentaires autour de la filmographie de Bong Joon-ho, est-ce que vous avez senti une différence entre le Bong Joon-ho qui travaille en Corée et le Bong Joon-ho qui travaille avec des acteurs américains ?
Absolument pas. Il a toujours la même éthique de travail. Il a toujours cette espèce de bienveillance et de contrôle absolu sur tout, sur un plateau. J'avais eu la chance d'aller sur le plateau de Mother en 2009. C'était la première fois que...
Quelle chance!
Ah ouais.
Oui, je sais, je ne mesure pas encore ma chance. Et j'étais un tout jeune réalisateur de documentaires à l'époque. Et c'est le premier sujet que j'ai tourné d'ailleurs sur ces films. Donc c'était sur Mother. Et j'étais impressionné de voir à quel point les gens étaient dévoués entièrement au film. Les journées de tournage alignaient les 15h, 16h. On était là, quand j'étais arrivé sur le plateau, c'était en bout de tournage. Ils avaient tourné pendant 6 mois dans toute la Corée. Les gens étaient épuisé, mais tellement fier de pouvoir apporter leur contribution au résultat final. Et il y a quelque chose de très spécifique à Bong Joon-ho. J'avais découvert ça en Corée, je l'ai vu plus tard chez d'autres réalisateurs coréens, mais il monte sur le plateau. Toutes les séquences qu'il tourne sont directement montées. Il a une salle de montage qui est accessible à tout le monde, ce qui permet à tous les gens de l'équipe, mais vraiment tout le monde, de pouvoir voir le film naître au fur et à mesure de sa fabrication. Et en parlant de Snowpiercer, là, tout à l'heure, il a essayé, dans le plan de travail, de faire en sorte que le film soit tourné presque quasiment dans l'ordre chronologique, ce qui permettait à la fois aux comédiens et aux techniciens de voir le film se dérouler devant eux au fur et à mesure du tournage. Et ça, ça crée une sorte d'émulation extraordinaire sur le plateau.
Oui, donc ça veut dire qu'il sait précisément déjà où il veut aller pour pouvoir anticiper toutes ces phases de montage avec le reste de l'équipe.
Absolument, il storyboard tous ses films au plan près et il arrive tellement préparé, il se documente beaucoup sur tous les aspects de ses films, que ce soit sur Memories of Murder, sur toute la partie enquête, que ce soit sur Snowpiercer, sur la fabrication même du train, où lui-même avait réfléchi comment est-ce que techniquement il était possible de réaliser un décor qui lui permette de tourner son film. Enfin, il va vraiment aux profondeurs dans toutes les strates de son sujet, que ce soit sur le plan du tournage, sur le plan de l'histoire, sur le plan de ses personnages, sur leur backstory. Il est extrêmement préparé, mais ce qui lui donne après une totale liberté sur le plateau parce qu'il sait exactement où est-ce qu'il va aller sur le plan d'après. Il sait comment raccorder constamment. Donc c'est un aller-retour constant entre sa vision, qui n'est pas du tout... c'est une vision très claire de ce qu'il a envie de raconter, mais il se laisse la liberté de changer des choses au dernier moment, et notamment d'écouter les autres. C'est quelqu'un qui est complètement, Bong Joon-ho, c'est quelqu'un qui est complètement à l'écoute des remarques de tout le monde sur un plateau, que ce soit un régisseur, que ce soit l'ingénieur du son, que ce soit un comédien, un producteur. C'est quelqu'un qui est étonnamment ouvert et qui arrive à convaincre tout le monde de le suivre dans sa vision, parce qu'on voit le film qu'il a en tête, en fait, tellement il parvient à l'expliquer, à le montrer et à le vivre. Il mime lui-même ses scènes sur un plateau, par exemple. Il fait lui-même les rôles de tout le monde, ce qui est très drôle, ce qui est très cocasse, mais il arrive à insuffler cette énergie-là, que moi je relis toujours à l'enfance, hein, il est constamment dans le jeu. Par exemple, sur Snowpiercer, il me racontait que quand il était à l'écriture du scénario, il allait déjà chez Tilda Swinton, parce qu'il l'avait envisagé dès le départ de lui confier le rôle de Mason, et... ils ouvraient ensemble, elle habite dans un château, un manoir en Écosse. Et donc, chez elle, elle a des costumes de théâtre. Et ils s'amusaient à trouver ensemble à quoi allait ressembler Mason. Et c'est toujours dans l'ordre du jeu, dans l'ordre de l'échange, de l'enfance. C'est vraiment, tel qu'il me le raconte, c'était vraiment deux gamins qui s'amusaient avec une malle de vêtements et ils essayaient de définir le personnage à travers son costume. Enfin, c'est ça, Bong Joon-ho, c'est une multitude de détails, mais je pourrais me perdre à l'infini. Non,
mais en même temps, c'est formidable de vous entendre parler et d'évoquer tout ça, parce que en vous écoutant, je me disais, ah, voilà autant d'éléments qui rendent une réalisation de James Bond très compliquée, parce que imaginer un film de commande avec une mentalité et un sérieux autour de son travail tel que celui-ci,
Je vois beaucoup de producteurs lui téléphoner et dire ah oui, mais en fait, on aimerait bien rajouter ça parce que d'après les tests, les projections tests, etc., etc., on n'est pas vraiment dans le même délire. Hein.
Ouais, mais imaginez Tilda Swinton en méchant
de traverser
formidable monde.
Subitement, on n'est plus du tout pour James Bond, on est pour la méchante.
On est totalement pour Tilda, mais c'est un peu ce que tu disais, ce qui s'est passé avec Snowpiercer, malheureusement, parce qu'il a rencontré son succès critique et commercial. Mais aux États-Unis, il y a eu une distribution très compliquée parce qu'à l'époque, Harvey Weinstein a voulu raccourcir le film.
Oui, oui.
Et ça, Bong Joon-ho, en fait, comme c'était dit avant, il a une vision, il sait exactement où il commence et où il finit, et ça a créé des grosses frictions, et heureusement, par la suite, il y a eu la plateforme, etc., donc il a eu quand même son succès commercial, mais c'est vrai que ça, c'est un gros sujet, et travailler avec des studios américains comme sur Mickey 17, il a eu le final cut, mais il y a des frictions, il y a des petites tensions.
Bastien Merosson, tout à l'heure, justement, quand on a retracé un petit peu la carrière de Bong Joon-ho, vous avez dit j'aime un petit peu moins son passage à l'Ouest. Et justement, comment vous l'avez vécu par rapport à ce cinéma ?
Bien, je vous rassure quand même bien. Même un Bong Joon-ho moyen,
c'est hyper
reste
inquiet.
Un très, très bon film.
Bien d'accord.
Et même Mickey D7, que je porte pas foncièrement dans le cœur, reste un très bon film et l'exemple même d'un anti-blockbuster sous couvert de blockbuster, donc c'est absolument fascinant. J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qui était déjà dit, mais vraiment dans ce qui est ressorti aussi dans mes interviews avec Bong Joon-ho, le temps que j'ai pu passer avec lui, c'est qu'il est, c'est un geek. C'est un geek absolu, c'est un cinéphile absolu. Il s'amuse vraiment avec le cinéma, mais il veut faire au mieux. Donc c'est pour ça qu'il passe d'un sujet à l'autre, etc. Parce que ce qui lui plaît, il a envie de le mettre en image. Et il s'en fiche finalement de surenchérir avec un Parasite 2. Ça ne l'intéresse absolument pas. C'est des projets de cœur. Et là où c'était extrêmement intéressant de travailler avec l'étranger, c'est qu'on lui a attribué beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent, évidemment, pour réaliser ses films. Mm-hmm. Transperce-Neige, c'était 30 millions des mémoires, donc c'était trois fois plus que son précédent plus gros budget. Okja, c'était 50 millions. Et puis, il a cassé la baraque avec Mickey D7, qui est estimé entre 150 et 180 millions. Et évidemment, c'est un sacré challenge, mais en fait, il est intéressé à pouvoir investir, à pouvoir utiliser cet argent pour expérimenter aussi des choses, pour acquérir un savoir-faire. Et il est vraiment, ce que Jésus soulignait, il est extrêmement collectif. Donc, tout ce qu'il acquiert, il a envie de le transmettre, de le donner ailleurs. Donc, il choisit aussi sciemment de faire des coproductions, de partir aux États-Unis pour apprendre, pour voir comment faire, pour réimporter ce savoir-faire, éventuellement des infrastructures en Corée pour en faire bénéficier les cinémas locaux. Et ça, c'est aussi la dernière donne avec un film d'animation qu'il est en train de faire.
Oui.
Il a renommé, il a trouvé le fonds nécessaire, etc. Il a fait construire un studio de dingue qui n'existait pas avant pour faire le film d'animation le mieux réussi et former une vraie équipe à embaucher des étudiants, des jeunes débutants, etc. pour l'assister dans la fabrication de ce film pour apprendre, pour ensuite voler de leurs propres ailes. Et ça, c'est vraiment beau.
Et il y a une question qui me taraude, c'est que celui qui a précédé Bong Joon-ho, c'est Park Chan-wook, avec Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance, etc. Et lui, en fait, quand il a été accueilli par le cinéma américain, il a eu droit à un remake qui est totalement dispensable de Old Boy. Et là où
moi j'ai un nausée quoi.
Ah ouais, non mais vraiment, des fois il faut pas faire des choses, faut pas réparer quand c'est pas cassé. Hein.
Ouais.
Et alors que Bong Joon-ho, lui, non seulement a pu tourner là-bas avec des acteurs en langue anglaise, j'ai l'impression qu'il a su réussir là où Park Chan-wook lui a eu une sorte de plafond de verre entre ce qu'il pouvait faire en Corée du Sud et aux États-Unis. Comment on explique ce différentiel selon vous ?
Oh là !
Allez, bonne chance.
La question. Tout le monde a envie d'y échapper et tout ça. Alors d'abord, c'est pas tout à fait vrai.
Vous avez
Park Chan-wook a quand même fait un film en langue anglaise avec Nicole Kidman et Nicolas Hoult qui est absolument formidable.
C'est
un scénario de l'acteur principal de Prison Break. Donc sur le papier, on avait tous piscine et le film est absolument formidable à réhabiliter, un polar noir très Hitchcockien. Donc il a essayé, bon, l'expérience cinématographiquement est validée. Lui, peut-être qu'il n'a pas passé effectivement un très très bon moment. Park Chan-wook, je ne sais pas s'il rêve autant que cela d'aller faire un film aux États-Unis. Je ne pense pas que ce soit son univers. Je pense qu'effectivement, il est très conscient des limites qui lui seraient imposées. Old Boy, le remake, est effroyable, mais il n'aurait jamais pu faire le Old Boy qui est le sien aux États-Unis.
Oui.
En termes de violence, en termes de construction, en termes de perspective de mise en scène, je pense qu'on lui aurait demandé de faire des choses beaucoup plus simples, beaucoup moins ambiguës sur le plan de la morale. Donc, je crois qu'effectivement, sa trilogie de la vengeance, son amour du manga, puisque il y a quand même aussi cette influence-là, fait qu'il y a chez lui cet humour très noir qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, encore une fois, cette espèce d'absurdité de la vie ne correspond pas du tout au canon du cinéma américain. Et peut-être, alors je parle à sa place, je l'ai rencontré deux fois, c'est un homme charmant, mais de là à quand même prendre la parole en son nom, c'est un tout petit peu outrecuit dans ma part. Mais je pense qu'il n'a pas tellement envie de ça. Alors que je pense qu'il y a, dans le mauvais esprit de Bong Joon-ho, une envie, effectivement, d'aller distiller le petit poison, le virus qui va faire exploser et imploser la machine aux États-Unis. Je pense que les deux hommes ne sont pas identiques, et c'est pour ça peut-être effectivement, vous avez raison de les relier dans une espèce de cheminement et des redécouvertes du cinéma sud-coréen, mais je pense qu'il y en a un qui a envie de faire les films qu'il fait, La Servante par exemple, voilà, qui est un film absolument magnifique. L'autre, effectivement, régulièrement, si on lui propose, il ira bien mettre un petit pied dans la fourmilière du cinéma américain qui a tellement, Marie le disait très très bien tout à l'heure, imposé des dogmes dont le cinéma sud-coréen et la série aussi a tellement besoin de se débarrasser, parce que c'est aussi le cinéma de l'envahisseur et de celui qui a contrôlé à travers effectivement la dictature et la censure.
Je me permets, Park Chan-wook a quand même fait Le Sympathisant et Little Drummer Girl en Occident. Voilà, donc il s'autorise quand même de temps en temps à faire des tournages qui sont aussi complexes et coûteux à l'étranger. On lui laisse encore un peu cette latitude-là, mais c'est intéressant que vous reliez Park Chan-wook et Bong Joon-ho, parce que pour revenir sur Snowpiercer, par exemple, pour la petite anecdote, c'est Park Chan-wook qui a acheté les droits de la bande dessinée auprès de Casterman pour l'adaptation du transpersonnage. Et vous savez pourquoi ? En fait, c'est parce que c'est Bong Joon-ho qui avait trouvé All Boy, qui est un manga à l'origine.
Donc ils se l'ont échangé, ils se sont donné les...
Absolument, absolument. Et oui, c'est Bong Joon-ho donc, qui a suggéré à Park Chan-wook de faire l'adaptation de ce manga. Et en remerciement, Park Chan-wook lui a dit « Bah voilà, ton prochain film, je t'épaulerai dessus. » Et ce prochain film, c'était Le Transpersonnage.
Sympa.
Parce que comme vous le savez, Bong Joon-ho, c'est un cinéphile, mais c'est aussi un grand, grand bénéphile. Voilà. Donc il y a un vrai pont en fait entre Park Chan-wook et Bong Joon-ho, en sachant que l'un est plus âgé que l'autre. Park Chan-wook est l'aîné de Bong Joon-ho. Il y a aussi cette relation de mentor à élève un peu, même si la différence d'âge n'est pas énorme, mais elle est quand même d'importance en Corée.
Oui, voilà, mais
c'est une anecdote.
Mais du coup, voilà, bah, tout fait sens, tout est relié. Et on parlait des possibilités d'adaptation d'un James Bond, mais alors tant qu'on en est à évoquer... Tant qu'on en est à évoquer des fantasmes, moi, il y a vraiment une saga pour laquelle j'aimerais voir Bong Joon-ho s'exprimer, c'est Star Wars. Quand je vois ce qui a été fait avec la série Andor et les différentes strates de classe sociale qui sont, je me dis, mais Bong Joon-ho serait comme un poisson dans l'eau là-dedans, et si on lui laissait la même liberté qu'on a laissée à Tony Gilroy, je serais intéressé de voir ce qu'il aurait à proposer dans cet univers-là, qui en plus est moins restrictif désormais que James Bond.
Après, alors en plus il a des influences comme Kurosawa, etc. Mais c'est vrai que Mickey 17 et l'espace, ça a laissé un petit goût amer. Malgré le gros budget, malgré la liberté qu'il a pu avoir sur ce film. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que Bong Joon-ho, qui sort de son territoire habituel, qui est la Corée du Sud, l'alchimie avec son casting, son Kang-ho, son équipe habituelle, son monteur, son chef-op, etc., une fois qu'il sort de ce cadre-là, est-ce que finalement, il arrive à fabriquer une vraie satire d'un Trump, tu vois, à travers Mark Ruffalo ? Il y a déjà, en fait, Saturday Night Live, il y a déjà des parodies.
Oui.
De ce qui se passe, est-ce qu'on
Mark Ruffalo, à coup sûr, lui, et parodier Trump, ça se sent très très fort.
Ça se sent très très fort, mais du coup, est-ce que ça peut prendre chez nous, où on est déjà habitué à cette parodie ? Ça marchait parce que finalement, voir des parodies de la Corée du Sud, c'était très nouveau pour nous. Voir une parodie des États-Unis, voir une parodie de l'Occident, par Bong Joon-ho, est-ce que c'était absolument inédit ? Est-ce que c'était voué à marcher ? Je sais pas, tu vois, mais je me pose vraiment la question à ce sujet, et pour Star Wars, pitié, laissez-le finir son film d'horreur là qu'il prépare depuis 2001. Oui. Je rêve de voir ce film sortir, j'espère que qu'il sortira un jour, parce que vraiment depuis 2001 on l'attend. Il a déjà la première scène d'ouverture, il avait un peu teasé là-dessus, on sait que ça se passera dans le métro, qu'il y a des gens qui courent, c'est hyper anxiogène.
Avec John Carpenter à la musique.
Et John Carpenter qui a dit oui, et ça j'en rêve. J'en rêve littéralement.
Et rendons à César ce qui est à César, c'est le réalisateur Charles de Celia, grand féru de musique, et notamment aussi des musiques de John Carpenter, qui me l'a glissé dans l'oreille. Hein. Je ne pensais pas que je suis féru au point de tout de suite voir dire « John Carpenter à la musique ». On me siffle des bonnes choses dans le casque. Et d'ailleurs, j'ai parlé de Park Chan-wook, on parle de Bong Joon-ho, mais est-ce qu'il y a un autre talent du cinéma coréen qui est injustement sous-estimé et que vous voudriez évoquer aujourd'hui, parce que là on demande aux auditeurs de rattraper un retard sur une filmographie, mais aussi on peut prendre de l'avance sur un autre talent venu de Corée. Donc je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez un nom à nous soumettre?
Alors le nom du réel, pardon, m'échappe, mais on a évoqué tout à l'heure Le Dernier Train pour Busan, effectivement.
Je suis dessus, je cherche le nom.
Tout
là,
à fait, infréquentable. Merci Marie, effectivement, oui. D'être complice avec moi.
On a...
Oui, bien sûr, j'imagine que...
C'est Yeong Sang-ho.
Voilà, je préfère que tu le prononces à ma place, hein, de toute manière. Mais effectivement, Le Dernier Train pour Busan, en un film, c'est tout de suite estomacant, c'est tout de suite extrêmement intéressant. Donc voilà, mais il y a des jeunes cinéastes qui arrivent, il y a des jeunes talents, ça manque de femmes. Voilà.
C'est vrai.
Mais ça, c'est valable pour l'industrie dans son ensemble.
Absolument. Mais j'aimerais que cette audace se fasse quand même, effectivement, se concrétise d'une certaine manière. Mais oui, non, mais il y a un vivier impressionnant de jeunes cinéastes sud-coréens qui arrivent. Après, il ne faudrait pas penser que nos auditrices et auditeurs pensent que le cinéma sud-coréen est arrivé avec Park Chan-wook.
Oui, bien sûr, c'est justement un peu ça que...
Il y a eu une longue saga, une longue lignée de cinéastes. Certains sont même devenus des ministres de la culture en Sud-Corée et ont vraiment fait des choses sur les quotas qui étaient extrêmement intéressantes. C'est passionnant parce que ça travaille toujours, effectivement, ce noyau névralgique et extrêmement sismique du rapport de classe et du rapport de force à l'intérieur de la société coréenne, à travers des drames qui sont purs, à travers des films de SF. Mais, voilà, ils ont un héritage très récent, mais très ancré, déjà. Et on a hâte, dans 10 ans, de refaire cette émission, ici ou ailleurs, pour pouvoir dire, ben ouais, effectivement, il y a eu... placé. Parce qu'on parle d'un cinéaste qui a 25 ans de carrière, et qui a 8 films, ce qui n'est rien.
C'est rien, hein. Mais c'est déjà énorme.
C'est énorme, et il s'est imposé depuis ses 3e, 4e films, comme un nom incontournable et indispensable de l'histoire contemporaine du cinéma international. Donc, ouais, quel talent, Park Chan-wook, pareil, enfin voilà, ils arrivent, ils sont là.
Jesus Castro Ortega ?
Oui, moi je recommanderais un film, parce que c'est un réalisateur qui n'a fait qu'un film pour le moment, c'est Shim Sung-bo, qui a fait Seafog, qui avait été, si je ne me trompe pas, produit par Bong Joon-ho, tout du moins en partie, qui est un très bon film qui a été distribué par Joker Film, si je ne me trompe pas, Manuel Chiche. Et vraiment, c'est un réalisateur, sur la foi de ce premier film, très prometteur, avec un huis clos à l'intérieur d'un bateau, où des enjeux politiques entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, en parlant d'immigration illégale et en parlant d'exploitation de l'humain par l'humain, est parvenu à concentrer comme ça des thématiques intéressante et assez poignante dans un huis clos, dans un bateau, voilà, qui essaie de, qui, voilà, c'est du trafic humain, mais voilà, ça, Shim Sung-bo, Seafog, je recommande.
Ouais, Seafog. C'est noté. Bastien Merson.
Alors, je vais en balancer plein, mais en toute douceur. Il y a Kim Ji-woon, d'ailleurs, il est très souvent cité dans le trio de fer de lance, justement, de ce renouveau des gens qu'on a vu déferler avec Bong Joon-ho et Park Chan-wook. Kim Ji-woon, qui a réalisé des films comme J'ai rencontré le diable, qu'on cite très souvent comme le film le plus marquant à côté d'Old Boy. Le bon, la brute, les cinglés, qui va sortir à la rentrée. Évidemment. Bittersweet Live. Récemment, ça tourne à Séoul, qui est un peu mal apprécié, alors que pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre. Sinon, dans le moins connu, mais on a aussi la possibilité de trouver le film assez facilement, il y a Ryu Seung-wan. C'est quelqu'un qui a fait des films comme Crying Fist, City of Wildlands, Veteran. Enfin, on peut le trouver soit en DVD, soit en VOD. Il est moins connu parce qu'il fait des films purement d'action, mais avec une mise en scène ciselée. Pour moi, c'est l'un des plus grands metteurs en scène du monde, des séquences d'action. Donc voilà, j'espère que j'ai bien teasé comme il faut.
Oui, oui, oui. Et là, vous avez vraiment éveillé mon intérêt. Hein. Là,
Et le dernier, c'est un vrai coup de cœur. C'est un réalisateur qui n'a fait qu'un seul film. Ce film s'appelle Concrete Utopia. Pareil, il est uniquement disponible en VOD, mais disponible donc en France. Concrete Utopia, qui est pareil, un pur film de divertissement, mais qui dénonce énormément de choses, qui est extrêmement audacieux en fait, donc une pure merveille, je n'en dis pas plus, Concrete Utopia. Et effectivement, on attend les femmes, mais ce n'est pas facile dans une société patriarcale confucianiste. Donc s'il y a 65% d'étudiantes dans les écoles de cinéma, il n'y en a que entre 20 et 30% qui font leur premier film. Et puis il y a une loi tacite qui existe en du Sud, qui est de ne jamais confier un gros budget à une femme, puisqu'il ne serait pas capable de gérer cet argent et de diriger une équipe et de diriger des acteurs masculins. Donc, elle doit se contenter d'œuvrer dans le cinéma indépendant ou faire des budgets moyens. Donc, un cinéma qui est malheureusement un peu moins représenté, qui voyage, qui s'exporte moins, mais c'est là, pourtant, qu'on trouve les choses vraiment les plus intéressantes. Parce que ce sont des réalisatrices qui se battent, qui en veulent, qui apportent un nouveau point de vue, une nouvelle fraîcheur, etc. Et qui, pour moi, sont en train de dynamiter le cinéma coréen. Parce que, par ailleurs, effectivement, on parle toujours de Park Chan-wook, Bong Joon-ho, mais qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, qui avaient des choses à dire, qui ont vécu encore une période transitoire, qui en veulent, qui sont des punks, alors que la génération qui a suivi, c'est des enfants un peu plus pourris gâtés dans le bon sens du terme, si on peut le dire, mais qui ont moins de révolutions en eux, qui se conforment un peu plus à la société, qui pensent peut-être plus à gagner de l'argent, moins à dire des choses. Donc voilà, du côté des réalisateurs coréens, je suis un peu dessus, aussi bien dans le commercial que dans l'indépendant, mais il y a quand même largement de quoi faire dans le cinéma sud-coréen, dont on ne connaît qu'une infime partie de ce qui se produit vraiment là-bas, comme toujours.
Je suis ravi de votre intervention, Bastien Meyrosson, et j'ai noté plein de titres. Donc, au nom des auditeurs et auditrices, nous vous remercions. Marie Palot, est-ce que vous avez un petit coup de cœur à ajouter ?
Oui, alors Kim Song-hoon, qui avait réalisé Tunnel en 2016, une adaptation d'un roman original que j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment un homme ordinaire qui traversait un tunnel, et malheureusement le tunnel s'effondre. Et ça faisait quand même écho avec la catastrophe du ferry Sewol. Même si c'était pas directement lié, le traitement en fait des institutions, encore une fois, l'incapacité de nos gouverneurs, des têtes en fait de nos élites face à la catastrophe, c'était assez bluffant. Et je trouvais que ce huis clos arrivait vraiment à transmettre énormément de choses. Le réalisateur de Dernier Train pour Busan, hein, tu le citais tout à l'heure, mais il a aussi fait un webtoon qui s'appelle Hellbound.
Oui.
Et qui a eu droit à une magnifique adaptation qui est dispo sur Netflix, où là, on voit vraiment la cellule familiale qui éclate, et on est revenu à cette liberté non consensuelle qu'ont les scénaristes coréens de mettre des enfants à contribution, de créer le danger à un point où on n'imagine pas, nous, en tant que parents, en tant qu'individus, en tant qu'humains, on ne s'imagine pas qu'on puisse écrire des choses comme ça. Et vraiment, je vous invite à regarder la série. Et puis peut-être plus tard, Bong Yeomin, le fils en fait de Bong Joon-ho, qui fait des études de cinéma aux États-Unis, et je lui avais demandé à Monsieur Bong Joon-ho justement quel regard il avait sur les travaux de son fils. Il disait, j'essaye de pas trop empiéter sur ce qu'il fait. J'aimerais lui donner des conseils, mais je le laisse vivre. Et je pense que ce serait intéressant de voir comment un enfant élevé aux États-Unis, irrigué par l'héritage de son père, mais aussi l'héritage coréen,
va réussir à transformer sa vision du cinéma à travers les futures œuvres qu'il proposera. Donc Bong Joon-min à coup sûr.
Merci beaucoup Marie Palot, merci Jesús Castro Ortega, merci Bastien Meyerson et évidemment merci Xavier Luherpeur. C'est la fin de cette émission, une émission réalisée de main de maître par Charles de Silia et préparée mais divinement par Lysiane Larbani. À la technique aujourd'hui, on remercie aussi chaleureusement Maxime Goudard. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 hein, si vous voulez parler directement avec Lysiane ou vous pouvez parler avec moi sur Instagram. Voilà, vous me posez des questions et je vous réponds. Voilà, c'est comme ça.
Mon cœur, ce bouton d'envoi, c'est comme le bouton de l'arme nucléaire.
Qu'est-ce que t'entends par là, mon cœur?
Dès que je les menace d'appuyer dessus, ils se transforment en statue. C'est comme un missile nord-coréen. Putain, le bouton nucléaire.